Libradio, www.libradio.org. Le frisson de la radio, le murmure des mots, le soubresaut de l'idée et le séisme de l'acte. www.libradio.org.
Le 3 juin 2018, ici aux Grottes, juste derrière la gare Cornavin, dans le cadre du programme radiophonique, eh bien, nous accueillons Sera et Pamela. Bienvenue à vous. Et merci de nous consacrer un peu de temps parce qu'effectivement, vous êtes en train d'organiser beaucoup de choses et notamment une marche dont on va parler tout à l'heure. Vous êtes toutes deux membres de la Slot Walk, dont on va, qui est le sujet qui nous occupe aujourd'hui et dont vous allez parler incessamment. Mais peut-être voudriez-vous vous-même vous présenter un tout petit peu plus à fond par rapport à ce que vous faites et dans la Slot Walk. Alors, je ne sais pas qui veut commencer, peut-être Sera.
Du coup, moi, je suis dans la Slot Walk depuis 4 ou 5 ans, je ne sais plus là. Donc, en fait, on n'a pas vraiment de fonctionnement attitré. Enfin, bah, moi, je suis trésorière parce qu'on est obligé d'avoir une trésorière. Du coup, je suis trésorière. Mais en fait, sinon, on n'a pas de fonctionnement attitré à la Slot Walk. Donc, c'est un peu chacune fait ce qui l'intéresse en fait, et ce qui l'apporte. Et du coup, je pense qu'aussi un peu nos motivations, nos projets et ce qu'on a fait dans cet asso, ils ont méga évolué à travers le temps. Et du coup, voilà, là, en ce moment, pour le cas de la marche, je m'occupe de la partie témoignage.
Ok, donc témoignage des personnes qui vont défiler et qui auraient envie de témoigner de ce qui leur est arrivé, ouais, d'un c'est... événement qui leur est arrivé.
Voilà, c'est ça.
Merci beaucoup, ça. Et toi, Pamela ?
Alors, moi, je suis là depuis le début de la Slot Walk, donc en 2012, on a fait notre première marche. Du coup, je n'ai pas de rôle précis, comme elle a dit Sera tout à l'heure, parce que l'idée, c'est aussi de fonctionner de manière non hiérarchisée. Donc, voilà. Et dès qu'il y a quelqu'un qui a un peu un rôle spécifique, ça crée aussi tout de suite des enjeux. Peut-être un truc intéressant, c'est que depuis le début, il s'est passé plein de choses et ça a en effet évolué de différentes manières dans ce qu'on fait, mais aussi dans ce qu'on dit et dans ce qu'on écrit. Voilà. Et grâce à l'asso, qui est un collectif au départ d'ailleurs, moi je me suis beaucoup intéressée à l'autodéfense. Et, du coup, c'est par l'asso, j'ai lu un livre et du coup, ensuite j'ai fait une formation d'autodéfense féministe. Et du coup, dans le cadre de l'asso, c'est assez intéressant d'apporter ça.
D'accord. Qu'est-ce qui vous a amené à Slot Walk, au mouvement Slot Walk ? Vous vous souvenez ? Parce que vous avez dit effectivement que, ensuite, bien entendu, les choses ont évolué. Mais quel a été le déclic qui a fait à un moment donné qu'on se dit, je vais aller dans un mouvement dont vous allez nous dire quelles sont les postures et les dessins, mais qui est quand même un mouvement apparent et donc il y a une mise en danger, dès lors que l'on apparaît publiquement, eh bien, on prête le flanc. On sort d'une forme d'anonymat, je veux dire.
Ouais.
Alors, vous vous souvenez de qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a été le déclencheur pour vous amener dans les rangs de la Slot Walk, hein ?
Bon, moi, sincèrement, je ne me suis pas dit que ça allait m'amener à être public et à apparaître publiquement et tout ça. Je ne me suis pas posé trop de questions. En vrai, j'étais proche de certaines personnes qui ont lancé la marche de différentes manières. Et puis en fait, on m'a dit, bon, tu viens. Et puis j'ai dit, bah ouais.
D'accord, ouais, ouais.
En gros, c'était pas plus compliqué que ça, quoi. C'était une entrée aussi dans le militantisme pour ma part.
Oui. Donc il y avait quand même cette volonté d'entrer dans une forme de militantisme opérationnel.
Oui, j'étais beaucoup dans la théorie. En fait, je suis partie plus de la théorie. Et ensuite, je suis redescendue avec les bases et vraiment le militantisme.
D'accord. Et toi, Sera, est-ce que tu te souviens de ce qu'était le déclencheur ?
Du coup, moi, j'avais suivi l'actualité des Slot Walk quand ça s'était fait aux États-Unis, Canada. Et après, j'ai vu qu'il y en avait une ici. Et je suis allée à deux marches quand c'était encore un collectif. Et après, elles ont fait une assemblée générale pour se constituer en association. Elles ont demandé à des gens s'ils voulaient être dans le comité. Puis j'ai levé la main. Et voilà.
Mais là aussi, pour toi, ça voulait dire...
Pour moi, c'était en fait, si j'entrais pas dans le comité, j'allais jamais vraiment faire un truc. Et du coup, je me suis dit, vas-y, il faut que tu fasses quelque chose, parce que sinon, tu vas jamais rien faire.
D'accord.
Voilà.
Okay. Et maintenant, s'il fallait faire un bilan de de l'état où vous êtes depuis que vous êtes dans la Slowpoke, hein, qu'est-ce que vous diriez de vous-même?
Oh bah que ça va beaucoup mieux qu'avant, hein.
Non mais je veux dire, ça fait également prendre conscience de ça. Y a-t-il des choses auxquelles vous attendiez pas qui surviennent, et y a-t-il voilà des modalités de lutte qui du coup vous apparaissent et que vous prenez à bras le corps maintenant alors que peut-être avant vous les ignoriez ou pas?
Alors déjà on se fait pas mal d'ennemis. On a de moins en moins d'amis, mais on a de nouveaux amis plus intéressants. Mais c'est vrai que ça amène pas de base d'être féministe, enfin de prôner le féminisme, ça amène pas trop des amis quoi. Et plus on va être disons, j'aime pas trop ce terme, mais radical dans ce qu'on dit et dans ce qu'on porte, et moins on va se faire d'amis. Donc ça a évolué dans ce sens là Je pense que je suis devenue, j'accepte vraiment beaucoup, beaucoup moins de choses. Et puis voilà, il y a des choses qui maintenant sautent aux yeux en fait et qui deviennent vraiment inacceptables, que je pense avant c'était pas aussi fort. Quoi.
Donc il y a une forme de conscience
qui
émerge, et puis une forme de, si j'ai bien compris, de, on est plus sûr de soi, sûr des luttes que l'on mène. Ça c'est important parce qu'effectivement dès lors que l'on est insécure, on a peut-être peur également de s'exprimer. Et là, c'est moins ou plus le cas.
Ouais, c'est clair. C'est aussi grâce à la solidarité qu'il y a eu entre les membres aussi, et qu'on avance ensemble. Et c'est vrai qu'on est assez fortes ensemble.
D'accord.
Et ça aide à se positionner.
Ouais. C'est vrai, tu as quelque chose à ajouter à ce que dit Pamela?
Enfin, je pense peut-être parler pour nous deux hein, quand même, ouais. Mais en fait, on a un peu débarqué là-dedans. Donc on n'était pas du tout dans le milieu militant. Enfin. Voilà, il y avait plein de trucs qu'on ne connaissait pas. Et en fait, au fur et à mesure, on a créé aussi des collaborations avec d'autres gens. On s'est investi dans d'autres trucs. Et puis, on a créé d'autres collectifs. Et du coup, en fait, je pense que ça a nourri nos réflexions. Et aussi, même sur les modalités de lutte, etc. Sur aussi le sexisme dans les milieux militants. Enfin, il y a un peu plein de trucs. Mais ça, c'était aussi quand même super chouette de passer par la Slowpoke en fait pour après aussi rencontrer des autres gens et des autres collectifs etc qu'on n'aurait pas forcément connu en fait si on n'avait pas eu ce militantisme là et puis en fait si aussi on n'avait pas été genre super motivé à rencontrer les gens etc parce que genre voilà la Slowpoke ça a aussi vachement évolué. Au départ c'était un truc un peu plus universitaire entre guillemets, enfin, et puis de plus en plus au fur et à mesure qu'on rencontrait des gens, hein, aussi on a un peu changé les événements qu'on faisait, par exemple. Enfin, par exemple, on participait au 1er mai avec le Bloc Révolutionnaire, ça fait 2 ans, non, ça fait 3 ans. Et puis, typiquement, avant, on n'avait pas fait ça. Enfin, du coup, c'est aussi, ça amène un peu plein de trucs, ça brasse plein de trucs. Et puis, je pense que ça s'est un peu ouvert sur ces modalités de militantisme, en fait. Mmh.
Créer du réseau, c'est important, je pense, également. Et ça fait partie de la posture de la Slowpoke. Alors on va peut-être quand même juste préciser, Slowpoke c'est un anglicisme,
oui.
Ça veut dire donc la marche des salopes. C'est un mouvement qui est né aux États-Unis.
Au Canada.
Pardon, au Canada. En quelques mots, est-ce que vous voudriez peut-être le situer?
Du coup, c'était en 2012, du coup, si je dis pas de bêtises. C'est un policier qui est venu dans un campus pour faire de la prévention contre les violences sexuelles et puis qui a dit aux meufs, du coup, que si elle voulait pas se faire violer, il fallait pas qu'elle s'habille comme des salopes. Et du coup, après, il y a eu une vague de contestations un peu qui ont pris le nom des slutwalk parce que du coup, il a dit faut pas qu'elle s'habille comme des sluts. Et du coup, elles ont fait les slutwalk. Et du coup, le message principal, c'était un peu en fait, c'est pas l'habit qui crée la violence sexuelle. Et de refuser ce victim blaming là, enfin, du coup, de refuser cette culpabilisation. Et puis de pouvoir dire, témoigner en fait de ce qu'on a vécu sans. Sans qu'on nous dise que c'est notre faute en fait. Mmh. Et puis du coup ça c'est un peu la base. Mais après maintenant des slow-talk, il y en a dans plein d'endroits, il y en a dans plein de pays. En Europe il y en a beaucoup moins maintenant, il y a plus que nous je crois. Et puis c'était quoi, on avait vu Portugal, je sais plus, il y avait un autre endroit où il y avait. Mais sinon en fait ça s'est vraiment essoufflé. Par contre ça reste encore actif dans d'autres endroits, genre en Amérique latine il y a pas mal. Et après, ça prend. Enfin, il n'y a pas un groupe slow talk, genre une fédération slow talk. Enfin, c'est un peu plein de slow talk différents, de mouvements différents. Il y a aussi des slow talk avec lesquels, par exemple, nous, on n'est pas du tout d'accord. Genre slow talk Paris, par exemple, ils avaient eu des propos super problématiques sur le harcèlement de rue. Ils avaient dit qu'ils n'étaient pas féministes. Enfin, ils avaient dit. Que...
Ok.
Voilà, donc juste, faut bien se dire ça, quoi.
Ouais, que c'est un mouvement extrêmement décentralisé, mais extrêmement.
Ouais.
Autonome d'une certaine manière,
c'est-à-dire que voilà,
il y a des émanations qui peuvent être très différentes l'une de l'autre. D'accord. Alors, on va se concentrer sur la slow talk Genève. Comment est-ce que d'abord on peut se renseigner? Il y a un site internet ou c'est plus une page Facebook qui est opérationnelle?
Alors déjà, bon, l'asso elle s'appelle Slow Talk Suisse parce qu'à la base on avait la volonté de s'élargir. Et en réalité, ça a commencé entre Lausanne et Genève. Et puis en effet, comme tu dis, c'est plutôt Slow Talk Genève actuellement, et surtout parce que la marche a lieu à Genève.
Ouais.
Ouais. Mais il y a quand même pas mal de personnes qui viennent des autres cantons romands. Quoi.
D'accord.
Et la question c'était.
Alors voilà, la manière dont on peut s'informer, c'est plus un site internet ou c'est plus la page Facebook?
Alors actuellement, il n'y a pas de site internet là pour le moment depuis quelques mois. On va bientôt en rouvrir un. Voilà, on a un petit peu des soucis techniques, mais on va avoir une nouvelle. Un nouveau site, mais c'est vrai que c'est pas trop par là qu'on communique, et c'est beaucoup par la page Facebook qui a pas mal de personnes qui suivent, plus de 4000, ce qui est quand même pas mal.
Ouais.
Et puis ça touche aussi un certain public qui n'est pas forcément politisé à fond. Voilà. Du coup, ça c'est aussi un des points de la slow talk. Comme elle l'a dit avant, on va aussi vers des choses le 1er mai, des choses comme ça, mais en fait c'est extrêmement large et c'est aussi le but de notre asso de toucher. Un max de personnes et pas que des personnes qui se disent féministes, qui se disent militantes. Voilà. Et du coup, avec la page, que moi je fais pas grand chose là-dessus, mais Sarah et une autre personne sont vraiment à fond. Donc je te laisse la parole.
Donc on la trouve sur Facebook sous l'appellation
Slow Talk Suisse. Ouais.
D'accord.
On a aussi un Twitter qui là est moyennement actif, pas trop, et puis un Tumblr aussi. Tous le top suisse.
Ouais. Donc oui, mais après grosse partie de la com, c'est...
Ouais, c'est par Facebook, quoi.
Ok. Alors...
Mais je fais de la pub, quoi.
Ah ben, tout va bien, non, mais c'est clair. Donc, la slow talk, en fait, c'est une marche avant tout, à laquelle vous avez ajouté quelques éléments, comme les témoignages. Mais a priori, c'est vraiment... La centralité, c'est la marche. Comment est-ce que ça se déroule habituellement? Parce qu'il y a d'abord des prises de parole, on marche ensemble derrière un appel, et puis ensuite à la fin il y a des témoignages, et c'était une partie un petit peu festive également. De quelle manière est-ce que ça se passe? Et le deuxième volet de la question, c'est tous les combien de temps?
Mais juste avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet de comment se déroule la marche, moi je dirais que la slow talk, enfin le mouvement slow talk, c'est des marches, et puis slow talk suisse du coup c'était des marches, mais j'ai l'impression que maintenant on fait aussi beaucoup plus de trucs que juste cette marche. Et en fait, les gens, enfin forcément, c'est ce qui est le plus visible, etc. Donc on pense tout de suite à la marche, et puis c'est un des gros événements qu'on organise. Mais en fait, tout au long de l'année, on apporte quand même notre soutien à des personnes qui veulent témoigner. Et en fait, ça c'est vrai. Et en fait, on est méga présente aussi, sur Facebook et puis par mail. En fait, on reçoit tellement de messages, Facebook ou mail. Après, de gens qu'on va même pas forcément rencontrer, mais en fait, plein de sollicitations de toutes parts. Et puis voilà, là on fait pas mal quand même de collaborations, d'écriture. Enfin, du coup, maintenant je pense que la marche c'est notre truc principal, mais je dirais que ça se résume. Enfin, c'est vraiment pas que le truc.
C'est notre truc le plus visible.
Voilà.
C'est pas du tout l'activité principale de l'asso.
Voilà. Ouais.
Alors justement, quelles sont-elles ces revendications centrales et ces activités centrales de Slow Talk Suisse?
Bah, je pense vraiment un des gros trucs, c'est l'accompagnement de personnes qui veulent témoigner. Donc ça, c'est vraiment un gros truc qu'on fait. Donc voilà, c'est les rencontrer, c'est écouter leurs témoignages, les rediriger vers des personnes, ou alors, voir avec elles si elles veulent témoigner pendant la marche ou pas, ou enfin voilà, les accompagner par exemple dans les trucs juridiques si elles auraient besoin. Enfin, du coup, il y a un peu plein de trucs. Ça, c'est vraiment un gros truc. Après, on fait un énorme travail d'information parce qu'en fait, on est toujours en train de lire des trucs et puis ben, du coup, on les reposte, etc. On en discute, sur Facebook.
Il y a des points de revendication comme ça qui sont effectivement extrêmement moteurs et centraux.
Alors, dans les revendications, donc, nous, on est une association qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc,
voilà.
Principalement les violences sexuelles. Ça, c'est notre axe. Et... comme on l'a dit au début, un des trucs principaux, c'est de lutter contre la culpabilisation des victimes, c'est-à-dire de rappeler tout le temps, c'est notre message principal, que les coupables, c'est les agresseurs, c'est jamais les victimes ou survivantes. Et ça, c'est vraiment important parce que, et du coup, ça, je peux continuer avec une des activités principales de cette année, c'est une exposition qui s'appelle « Mais t'étais habillée comment ?» qui vient aussi des États-Unis, je ne sais plus de où, mais qu'on a repris un peu presque tel quel en demandant l'autorisation. Et du coup, c'est des témoignages qui sont présentés à côté des vêtements que portaient, des vêtements ou de rien du tout, que portaient les victimes survivantes de violences sexuelles. Et c'est le « Mais t'étais habillée comment ?» C'est pour justement montrer que c'est un peu la question qu'on pose quand on dénonce des viols ou violences sexuelles. En gros, on remet en question la véracité de ce qu'on dit et que, en gros, selon comment on est habillé, ça justifierait les violences sexuelles. Du coup, ça montre tout type de vêtements. Ça peut être, ça peut être des sous-vêtements, ça peut être rien parce que c'était dans un espace privé, dans la chambre, ça peut être un pyjama, ça peut être un training. Et c'est vraiment pour montrer que la culpabilité, elle est sur l'agresseur et elle reste sur l'agresseur.
On va venir aux activités, à l'actualité de la Sodom, mais j'avais encore une question pour étendre ce que tu viens de dire. Est-ce que vous observez dans notamment les mass médias un problème sémantique, un problème de langage qui est à court? Parce que c'est vrai qu'on observe très communément des déséquilibres assez prégnants entre quand un garçon qui tue, qui agresse, en disant que c'était parce qu'il était le pauvre amoureux, et que du côté féminin, eh bien, c'est surtout parce qu'elle était agricheuse. On a beaucoup de déséquilibres encore, on le constate. Alors par rapport à ça, est-ce que vous-même, vous agissez là-dessus, et puis est-ce que vous confirmez le propos que j'essaie de tenir là, ou en fait pas, et vous, on a plutôt l'impression que les médias essayent de changer leur champ sémantique, leur champ lexical?
Il y a un truc qu'on peut dire, c'est que dans la façon dont sont présentés ces faits divers, à savoir ce que nous on nomme féminicide par exemple, moi j'ai l'impression que ça reste vraiment. Il n'y a pratiquement personne qui utilise ce mot, alors que un féminicide c'est vraiment quand une femme elle est tuée et par souvent par son mari, ex-mari, ex-conjoint, quelqu'un de très proche. Et que c'est très important d'utiliser des mots précis parce que ça montre, c'est pas juste le mot, c'est pas juste passer une femme qui s'est fait tuer. Ça implique plein de choses et ça montre que c'est vraiment lié au système, aux violences de genre. Et moi, je remarque pas de grands changements là-dessus. Faut aller vraiment chercher dans les journaux les faits divers et de regarder qu'en fait, il s'agit d'un féminicide.
D'accord. Mais là, il y a un travail qui reste à faire, un travail de fond qui reste à faire avec les médias et en tout cas avec cette marche, elle aura lieu donc le 16 juin prochain. Y a-t-il, alors c'est le tour Oxus qui l'organise, y a-t-il des, c'est une question pour faire la transition, donc elle est un petit peu à cheval sur les deux choses, y a-t-il des pairs, PIRS, des alliés avec lesquels vous organisez cette marche, ou en tout cas qui vous sont très proches en temps normal, ou c'est vraiment le tour qui meut les choses?
Non, cette année, on a demandé l'aide du groupe d'action féministe, le GAF.
GAF, ouais.
Parce que, du coup, comme je disais avant, là, on avait beaucoup, beaucoup de trucs à faire dans nos vies un peu personnelles et du coup, on n'arrivait pas trop à s'en sortir. Donc, du coup, c'est le GAF qui va prendre en charge l'organisation d'une soirée qui aura lieu le 13 juin au Silur pour créer des pancartes, des banderoles, etc. Nous, on amènera quand même notre infokiosque. Il y aura aussi un atelier cache téton qui va être organisé. Que ça, c'est nous qui coordonnons. Mais du coup, voilà, ça, c'est le GAF qui se charge de ça et c'est méga cool. On les remercie encore beaucoup parce qu'on n'aurait pas pu le faire sans. Et après, je pense que aussi, on peut dire quand même merci aux têtes de l'usine qui nous accueillent à peu près chaque année depuis un petit moment. Et là, en fait, la soirée après la marche, dont on va parler peut-être un peu mieux plus après, ça va être là-bas aussi. Et ça, clairement, pour nous, il y a des gens, Date de l'usine, c'est vraiment des alliés.
On n'est pas tout à fait sûr, vu que ce n'est pas nous qui organisons, mais le 13 juin, donc c'est le mercredi d'avant la marche,
potentiellement ce serait toute l'après-midi l'événement. Mais les infos suivront. Voilà, on aura bientôt un événement. Un événement Facebook. Ouais. Ouais. Mais on est un petit peu en retard cette année sur l'organisation. Mais on était à ça de ne pas l'organiser. Peut-être c'est un peu intéressant de dire ça. Ouais. C'est que on a vraiment hésité, ce qui fait qu'on était. Enfin, on était déjà très en retard, on a continué d'être encore plus en retard parce qu'on était occupé sur d'autres choses. Et on a été. Enfin, on voulait vraiment pas lâcher, mais on était toutes là, non mais on n'y arrivera pas. Puis en une demi-heure, on s'est remotivé. Et puis aussi surtout, il y a des personnes qui sont venues nous dire, non mais en fait, vous faites cette marche, vous pouvez pas ne pas la faire. En fait, il y a des gens qui attendent une année là pour cette marche. Donc ça nous a un peu aussi remotivé.
Donc voilà, a priori l'agenda, c'est 13 juin aussi, lui a confirmé pour les horaires.
Ouais.
Le 16 juin, la marche, donc il commencera où et à quelle heure?
Donc au skatepark à 13h et qui finit à...
Skatepark de Plein Palais.
Ah, skatepark de Plein Palais, tout à fait. Et qui finit au parc des Cropettes. Donc on ne sait pas trop, on ne va pas dire d'or maintenant, non, mais voilà. Ouais. Et puis à ce moment-là, il y aura un espace de témoignage qui va être organisé au parc des Cropettes. Donc il y a déjà des personnes qui ont dit qu'elles voulaient témoigner à ce moment-là, qu'on accompagne en fait dans ces démarches-là. Et après que ces personnes aient témoigné, il y aura un moment de témoignage entre guillemets libre.
Oui.
Pour qu'en fait les gens qui sont là
spontanément
puissent le faire avec un espace un peu after témoignage pour les personnes qui ont témoigné, donc avec genre des gâteaux, du thé froid, un peu des tapis par terre, et puis un truc où aussi les personnes elles peuvent venir avec qui elles veulent dans cet espace là pour qu'elles puissent un peu juste
chiller tranquille, voilà, dans un espace vraiment très bien. Et puis après la soirée au théâtre de l'usine.
Ouais.
Alors, qu'est-ce qui va se passer lors de cette soirée? Enfin, y a-t-il un programme ou c'est comme ça?
Il va pas se passer des choses exceptionnelles, mais déjà en soi, c'est assez exceptionnel parce que c'est 100 hommes, 6 genres. Et puis ça, c'est exceptionnel à l'usine. Hein,
ouais, c'est clair.
Donc, et puis, on a commencé à faire les soirées, je pense que c'est la quatrième. L'année passée, on l'a faite au Spoutnik. Et les deux autres années, on l'a fait à la Macno, donc toujours à l'usine. Voilà, on se déplace juste d'espace. Et c'est vrai que les personnes, après la marche, après les témoignages, sachant que les témoignages, on les a fait dès la première marche. Hein. C'est vraiment dès le début, il y avait marche, témoignage. C'est quand même très lourd pour les personnes qui témoignent, mais pour toutes les personnes qui écoutent. Souvent, elles ne restent pas tout le long parce que c'est 2 heures de témoignage. Et puis, du coup, d'avoir un moment après pour se ressourcer et reprendre un peu du pouvoir et puis se retrouver, en fait, c'était vraiment super important. Et après la première soirée, ça a eu un tel succès que tout le monde nous a dit non, mais il faut absolument refaire et continuer. Et la première soirée avait lieu à la Macno, mais seulement dans l'espace de Dance Floor. Du coup, quand on sortait, on se retrouvait avec des hommes 6. Et ça faisait un peu un choc, du coup on a décidé, et les personnes nous ont dit mais c'est un peu trop violent là,
du coup
on a décidé de faire vraiment que un espace que sans hommes.
Bon, a priori les personnes qui écoutent ce podcast savent ce que c'est, mais voulez-vous quand même préciser la notion cisgenre?
Cisgenre, c'est quand une personne a été assignée homme ou femme à la naissance et puis se sent homme ou femme dans sa vie, en fait. C'est jamais trop posé de questions par rapport à ça.
Beaucoup de travail là derrière, donc comment ça va pour vous? Et puis l'Ashlo Talk, en tout, c'est combien de personnes qui arrivent à se mobiliser pour un événement pareil? Ça préfigure la question qui vient après, qui sera: avez-vous besoin d'aide? Peut-on lancer un appel? Et si vous aviez besoin d'aide, de quelle aide s'agirait-il?
Combien on est au comité genre?
C'est à la louche, hein, c'est vraiment pour que les gens...
Pas moins de 10 quoi.
Ah oui, c'est sûr. Oui, non.
6 et 7.
Ouais.
Donc vraiment de personnes vraiment actives, entre 6 et 7. Après, il y a un peu des membres. Enfin, il y a aussi des personnes qui sont vraiment actives à un moment, qui après sont moins actives. Et voilà. Mais.
L'organisation vraiment de la marche, ça aussi entre 4 et 6 personnes qui sont à fond.
Ouais.
Du coup, besoin d'aide, besoin de quoi? Là, on lance l'appel maintenant.
Alors, donc nous, en fait, on a besoin d'aide pour la soirée. Donc, pas des personnes, pas des mecs, pas des hommes cisgenres, du coup, pour le coup. Mais toute autre personne est bienvenue. Ça serait pour tenir le bar et puis et faire l'entrée aussi. Sachant que l'entrée, il y aura toujours une personne de la Sopo qui sera à l'entrée. Parce que des fois, en fait, y a des hommes cisgenres qui veulent rentrer et ils ne comprennent pas qu'on ne puisse pas rentrer, etc. Ouais. Donc, c'est bon, nous, on est habitués à ça, il n'y a pas de souci. Et puis, voilà, pour tenir le bar. Donc, on va de toute façon lancer un appel sur Facebook et puis avec... avec un joli framadé, ou framapad, ou... je sais pas ce que Pamela va nous organiser,
non,
mais elle va...
Ouais, mais on salue,
hein. Non, mais oui, le petit tableau est prêt, voilà. Il faut juste qu'il soit envoyé. On est en retard, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Donc, d'autres...
Après, on a besoin que les gens y viennent.
Alors, ça, certainement.
Non, mais c'est ça, on le répète, parce que voilà, c'est... ouais, c'est vraiment important que les personnes viennent. Et puis ensuite, ben, on a toujours besoin d'aide au sein de l'association. Attends. Donc du coup aussi, bah, vous pouvez, enfin, à travers notre mail ou à travers Facebook aussi, si les personnes qui ont envie de s'investir plus, c'est vraiment bienvenu. Et en sachant que y a des projets en cours, donc on peut se greffer à des projets, mais on peut aussi tout à fait amener ses propres projets.
D'accord.
Il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit. Donc nous, on est assez ouverte à ce que des nouvelles personnes nous rejoignent. Et bien après, on a besoin d'argent. Parce que du coup, on n'a pas de... Oui, on fonctionne par don. Et on a une cotisation prix libre. Donc bon, voilà, ça ne nous amène pas à grand-chose. Donc on appelle les membres à payer leur cotisation. On appelle tout le monde à devenir membre de la Slot Wall qui a payé sa cotisation. Et puis à faire, voilà, à faire des dons pour qu'on puisse... fonctionner, quoi.
Tout simplement, bien sûr.
Acheter du matos, inviter des personnes aussi, payer les artistes qui viennent aux soirées, voilà.
Ouais, ok. On arrive doucement au terme de cet entretien. J'aurais encore deux questions à vous poser, qui seraient celles-là. Donc, j'aimerais savoir quel retour vous avez des personnes qui sont déjà venues ou qui ont... qui connaissent la Slot Wall, en tout cas qui se sont informés. Est-ce que vous trouvez plutôt assez facilement des alliés, ou est-ce qu'il y a plutôt des personnes... Parce que c'est un moment un peu spécial où on voit que, en même temps, on a l'impression que ce point-là est enfin quelque chose qui est mis sur la table depuis toutes ces années où différents collectifs féministes, justement, en parlent. Mais il me semble qu'il y a quand même des réticences assez incroyables qui ont encore cours, avec des fois des recours aux invectives. Alors, j'aimerais savoir comment vous observez ça, première partie. Et puis la deuxième partie, c'est est-ce que vous sentez relayé par les médias en général, ou est-ce que là aussi vous sentez qu'il y a un ostracisme ou un déni ou...
Moi je pense qu'on a des bons retours comme des très mauvais retours. Enfin en fait, du coup il y a plein de gens qui sont méga contents. En fait on sait que c'est tellement fort de proposer cet espace de témoignage pour reprendre que ça, que c'est genre on peut pas avoir. Les gens en fait c'est oh mon dieu. Enfin de pouvoir témoigner comme ça c'est ça peut être tellement libérateur, ça peut être tellement important pour une personne que voilà. Après, on se prend aussi plein de violences et puis aussi des menaces dans la figure. C'était aussi une des raisons pour lesquelles on n'était pas... Enfin, on avait réfléchi à faire cette marche ou pas. Mais en fait, par nos prises de position, genre publiques, il y a des gens qui sont pas contents et puis en fait, qui même sont allés jusqu'à retrouver des adresses de certaines de nous pour...
Donc ça peut encore aller très loin, je veux dire, dans le sens où...
Là, du coup... Okay. Je rebondis sur ce que Sarah a dit et une de nos prises de parole ce sera à ce propos à propos des menaces.
D'accord.
Notamment.
Ok. Et puis alors concernant les médias, habituellement, est-ce que vous êtes relayé ou est-ce que vous observez là aussi justement un ostracisme, un déni?
Je pense en fait la première marche, les médias se sont donnés à cœur joie parce que y avait des personnes qui étaient en sous-vêtements dans la rue, donc ça c'était super intéressant. Mais en gros, notre sentiment c'est que ça s'arrête un peu à là et que ça a été compliqué d'avoir des articles un peu plus de fond. Il y a eu quelques articles quand même après quelques années un peu plus de fond, mais sinon c'est vrai que si ça fait le buzz parce qu'il y a des filles qui sont en sous-vêtements, c'est cool, et sinon pas un grand intérêt. Après l'année passée, on a essayé de mettre en place quelque chose par rapport aux photos. Vu que tout tourne aussi autour du consentement, on est allé aussi jusqu'à là et de dire aux personnes qui marchent qu'en fait elles ont le droit aussi de dire non aux photos. Et que oui, c'est un espace, c'est public. Oui, évidemment, on sait que quand on sort, et si on sort en sous-vêtements ou les seins nus ou quoi, il y a des personnes qui vont vouloir. Ouais, mais en fait, on a quand même le droit, ça reste notre corps, on a le droit de dire non. Et du coup, on va continuer cette année et on aura un petit protocole pour les personnes qui prennent les photos. Et ce sera les photos, ce sera avec le consentement ou pas de photos.
Très bien.
Mais aussi, l'idée, on sait très bien que ça sera compliqué et que ça, les photos volées, il y en aura. Mais c'est vraiment aussi pour conscientiser les personnes. Il y a des personnes très très jeunes qui manifestent. Ça touche vraiment des personnes qui sont aussi des collégiennes. Et du coup, leur faire prendre conscience aussi qu'elles ont le droit de dire non, en fait, et que ça reste leur corps, en fait, quelle que soit la façon dont elles sont habillées.
De la même manière, faire peut-être un peu de pédagogie avec les personnes qui prennent des photos comme ça, n'importe comment.
Alors ouais, en fait, on est en train de taffer sur ce protocole photo qu'on va envoyer aux rédactions, en fait. Pour leur dire que si du coup il y a des journalistes, de photographes qui veulent venir prendre des photos, et ben en fait il faut d'abord qu'ils suivent une sorte de cours un peu, je sais pas comment dire, un peu sur le consentement, que du coup on n'aimerait pas que ça soit des hommes cisgenres non plus comme photographes. Et puis de faire un protocole, etc. comme ça. L'année passée, c'était la première fois qu'on faisait ce truc justement sur les photos, on avait attiré l'attention là-dessus. Et en fait, du coup, l'année passée, les médias, ils ont beaucoup, beaucoup parlé de nous, en fait, parce que tout d'un coup, on avait dit qu'on n'était pas d'accord de faire des photos. Et en fait, voilà. Donc au départ, ils étaient contents parce qu'ils pouvaient prendre des photos de seins nus. Et puis après, ils n'ont plus le droit de prendre des photos alors qu'ils venaient plus. Mais du coup, là, c'était scandalisant. Et puis du coup, on a vraiment eu plein d'articles l'année passée sur, mon Dieu, elle refuse de se faire prendre en photo, ce qui n'est pas vrai, en fait. C'est juste qu'on leur dit, il faut que vous demandiez aux gens. Enfin,
mais il y a plein de personnes qui sont très heureuses d'être prises en photo.
C'est marrant de voir leur réaction et la posture qui est celle de dire de se victimiser et puis de dire non, mais en fait, c'est parce qu'elles ne veulent pas. Et de simplifier un message qui n'était pas du tout celui-là, de réduire à ce qui n'est pas. D'accord, donc voilà, ça c'est. Donc il y a plusieurs. Il y a beaucoup de notions centrales qui vont être émises lors de cette marche. Consentement, comme vous avez dit. Évidemment, toutes ces situations, la possibilité de témoigner, ces situations de violence sexiste. Et s'il fallait, je ne sais pas, souhaiter quelque chose à Slow Talk, qu'est-ce que ce serait? Ce que je veux dire par là, c'est que vous, de votre point de vue, vers quoi est-ce qu'on va? Est-ce que vous sentez que justement cette conscience, parmi également les personnes un peu plus jeunes, elle émerge? Ou est-ce qu'on est encore vraiment loin du compte?
Moi, je trouve qu'on va. Enfin, moi, je suis assez contente, en fait, de manière générale. Enfin, je trouve que. En tout cas, après, des gens qui nous suivent, après, c'est pas tout le monde, mais voilà, j'ai l'impression qu'on a quand même une grosse communauté de gens sur Facebook et avec plein de gens qui sont quand même contents de ce qu'on poste. Du coup, voilà. S'il faudrait souhaiter un truc à la Zoto, ce serait du temps.
J'allais dire de l'argent, tu
vois. Ouais,
enfin, l'argent, non, mais voilà.
Si on peut nous donner du rap de temps, moi, je prends. Mais pour tout le temps, hein, pas que pour là. Mais on a tellement de trucs à écrire, on veut faire tellement de choses. Ouais. Voilà.
Bon, ça, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup à faire.
Ouais.
Donc, il reste beaucoup à faire quand même.
En fait, il reste beaucoup à faire, mais nous aussi, on est toujours. Enfin, des fois, c'est un peu notre faute aussi. Hein. On est là, on a été sous l'eau, mais en fait, c'est parce qu'on a voulu faire 90 trucs et puis parce que tout est important. Et puis, en fait, on relit nos textes qu'on a écrits il y a 6 mois, puis on se dit non, mais en fait, ça va pas du tout, il faut le refaire. Et en fait, moi, c'est trop ça que j'aime avec cet asso, c'est qu'en fait, jamais il y a ce truc. En fait, c'est jamais fini. Et puis, il y a toujours du débat, il y a toujours des trucs et on avance tellement. Enfin, c'est trop bien, en fait, au niveau théorique, les avancées qu'on fait, quoi. Et,
ah, ben c'est génial d'entendre ça en tout cas. Je vous remercie beaucoup Sarah et Pamela d'avoir pris ce temps sur votre agenda serré, hein, parce que là on y arrive. On va rappeler peut-être juste l'agenda, donc a priori non, le 13 il y aura cette journée, mais les horaires sont encore un petit peu sous réserve, mais on sait que ce sera aussi dur. Donc ça c'est pour la première partie, donc à ce moment-là il y aura des bricolages.
Banderoles, pancartes. Voilà. Notamment, et t'as pas dit, Sarah, on a créé une petite chorégraphie et du coup on l'a postée sur Facebook, donc vraiment simple pour que tout le monde puisse l'apprendre. Du coup, on fera une petite répétition aussi dure le 13 juin de cette chorégraphie.
Génial, donc ça va être bien le 13. Ensuite, le 16, c'est la marche à 14, non, 13h, pardon.
13h,
au skatepark de Plainpalais. Avec à la fin les prises les témoignages ici dans le parc des Cropettes.
Ouais.
Et puis la soirée qui est dans la continuité du 16 juin, qui sera au théâtre de l'usine, en mixité choisie, peut-on dire?
Oui.
Sans mecs, six genres.
Ouais, c'est ça.
Et quoi d'autre? L'entrée libre, à part ça?
Oui, prix libre.
Voilà, prix libre.
Dès 21h jusqu'à 4h.
Ah ouais, donc là, c'est bien, les personnes vont pouvoir faire bien plaisir. Et puis pour en terminer, peut-être rappeler la page Facebook et l'adresse de contact pour les personnes qui aimeraient vous rejoindre ou s'informer ou questionner.
Renvoie la page Facebook. C'est Slow Talk Suisse, la page Facebook, ouais. Et c'est slowtalksuisse@gmail.com aussi.
D'accord. Est-ce qu'il y a une question à laquelle je n'ai pas pensé, auquel vous auriez souhaité répondre, qui comme ça surgit? On a été relativement exhaustif pour aujourd'hui.
Bon, chaque thème, ouais. On pourrait développer pendant 3 heures.
Et on vous demande. Mais pour un premier épisode, ça vous va comme
super.
Ça
ouais.
Non, bon, on se réjouit beaucoup en fait. Cool. Même si on était très stressés et qu'on voulait, on voulait pas la faire cette année finalement. Mais
ça,
on est très
contentes, ouais.
Et on se réjouit, ouais. Et on espère, ouais. Qu'il y aura beaucoup de monde.
Super. Merci Sarah, merci Pamela.
Merci.
Et à
toi.
Bientôt. Ciao, ciao.
www.libradio.org, la radio qui vient à ta rencontre.